Cette semaine à la vie en BD, on se met en mode club de lecture avec le thème famille et BD ou, en plus long, toi, on peut dire que t'es pas le fils du laitier. Vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous, déjà 3 semaines qu'on est en plein cœur de cette 12e saison de l'émission. Et eh bien, il y a des éléments qu'on garde comme ça depuis plusieurs années qui sont devenus nos meubles, si on peut dire, mais des meubles victoriens ou des meubles modernes selon le type d'architecture que vous appréciez ou le type de design que vous appréciez. Et l'un de ces meubles, ben, c'est évidemment le club de lecture. Alors, c'est cette semaine, donc ce qui fait que je ne suis pas seul avec un invité, mais je suis plutôt seul avec 3 collègues lecteurs, libraires passionnés, qui vont passer l'heure avec nous et avec qui j'ai déjà une parenté d'esprit puisqu'on s'est évertué à lire les mêmes albums au fil des derniers jours, des dernières semaines. Alors, je rappelle en fait le fonctionnement du club de lecture pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Alors, essentiellement, donc nous sommes 4 et chacun, à tour de rôle, bien, on choisit une thématique. Et avec cette thématique vient un choix d'album. Donc, 4 albums pour 4 lecteurs. Et c'est un peu la nouveauté qu'on a introduit l'an dernier. Donc, les albums viennent de chacun, ce qui fait qu'on a toujours quand même des sélections assez variées en lien avec la thématique proposée. Et ça sera le cas encore une fois ce mois-ci. Et bien, je vous présente donc les vaillants lecteurs qui sont avec moi. Alors, à tour de rôle, Émilie Roy-Brière, bonjour.
Allô, Raymond.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Et je mentionne au passage que vous êtes tous 3 d'ailleurs libraires en résidence chez Pantoute. Alors, maintenant que c'est dit, donc les livres qu'on va discuter aujourd'hui, eh bien donc, je parlais d'une belle variété. Il y a les 500 premiers Cadieux de Xavier Cadieux à la mauvaise tête. Il y a Jiro Taniguchi, Quartier lointain, donc qui est du côté de Casterman. On a les Métabarons, donc tome 1. Wilhelm Sand, le techno-amiral, donc aux humanoïdes associés de Jodorowsky, Friesen et Scherer. On a également Théodore Poussin de Franck Le Gall, le tome 6, un passager de... Voyons, je ne me rappelle plus du sous-titre par ailleurs. Marco?
Un passager a disparu.
Un passager a disparu, merci. Alors donc, c'est les 4 titres qui vont être discutés ce matin. Et comme je le disais en ouverture d'émission, ben, la thématique qui aurait pu être tout simplement famille et BD a plutôt été proposée sous le thème suivant. Toi, on peut dire que tu n'es pas le fils du laitier. Et ça a été proposé par Émilie Roy-Brière. Alors, pourquoi cette thématique?
Bien, je pense que c'est la faute d'Edouard. L'autre jour, j'avais pas une bière chez eux. Puis là, Edouard dit « Ah ouais, là, il faudrait que je trouve une thématique pour la vie en BD. » Je sais pas, il me semble que j'aurais le goût de parler d'Achille Talon. Je dis « Ah ouais, ben oui, écoute, Achille Talon, pas de problème. » Puis là, on m'a proposé de trouver une thématique pour la vie en BD comme invité. Puis là, j'essayais de trouver quelque chose, ah ouais, je sais pas, là, de quelle bande dessinée j'aurais envie de parler, qu'on pourrait raccorder avec Achille Talon, je sais pas. J'ai eu l'idée de la famille, peut-être, je pensais à Achille, ses parents. Donc là, j'ai pitché cette idée-là. Toi, t'es pas le fils du laitier, en me disant, oh mon Dieu, c'est sûr qu'Edouard va pouvoir pitcher son Achille Talon avec mon fils à moi, mon papa à moi, etc., etc. Donc, je pitche mes 500 premiers Cadieux. Et quelle ne fut pas ma surprise? Édouard n'a pas choisi Achille Talon. Donc, on n'ira pas Achille Talon ce soir.
Non, ce sera peut-être partie remise pour une autre fois où on essaiera de teaser Édouard avec des thèmes propices à Achille Taloniser pour qu'éventuellement, il ne le fasse toujours pas. Alors, qui sait? Pourquoi pas? Et Émilie, tu mentionnais, ben d'ailleurs, bienvenue officiellement dans le club de lecture puisque tu es passé d'invité à membre régulière de notre club informel. Et donc, tes 500 premiers Cadieux qui a inspiré donc la thématique. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui t'a amené à la choisir? Puis qu'est-ce que cette BD pour ceux qui ne la connaissent pas encore?
Cette bande dessinée est tellement chaotique, tellement n'importe quoi, qu'on ne peut que tomber sous son charme, ben, sauf si on est Édouard et qu'on n'a pas de cœur. Mais c'est une bande dessinée québécoise que j'adore. La mauvaise tech n'existe plus. Donc, c'est assez difficile de se la procurer, à moins d'aller faire un tour en bibliothèque. Mais je continue à parler de cette bande dessinée-là à chaque fois que j'en ai l'occasion. J'ai envie de la faire découvrir. J'ai encore envie d'en parler. J'ai toujours autant de plaisir à chaque fois que je la lis. Donc, c'est les 500 premiers gadgets.
Et en fait, ce sera l'occasion peut-être aussi cette émission de faire des beaux yeux justement à un éditeur de BD québécois pour qu'il rachète le catalogue La Mauvaise Tête et l'intègre à une maison d'édition, parce qu'il y a quand même des beaux bijoux dans ce catalogue de cette feu maison d'édition. Et puisque je suis déjà en train de parler, mais dans le fond, à partir donc de cette thématique sur la famille, moi, ça m'a amené naturellement avec un de mes mangakas préférés, dans le fond, Jiro Taniguchi, qui est peut-être un peu décrit comme le plus européen des mangakas aussi, quand même un auteur qui est assez porte d'entrée, à mon sens, vers l'univers de la BD au Japon, il va sans dire, mais qui est un grand maître de façon générale, globale et entière. Il a fait mouche avec plusieurs BD qui sont vraiment venus me chercher. Et entre autres, ben, cette BD-là, Quartier lointain, qui part avec le principe, dans le fond, d'un homme 48 ans qui pas trop sûr, dans le fond, de s'il est là où il a envie d'être, au bout du compte, dans la vie, qui éventuellement se ramasse à aller se recueillir sur la tombe d'un parent et finalement, par la magie de la bande dessinée, se retrouve à redevenir qui il était quand il avait 14 ans, mais avec toutes ses connaissances qu'il a à 48 ans, toutes ses capacités qu'il a acquises au fil des années. Donc, c'est un peu peut-être le fantasme d'un jour de plusieurs pour voir bien, qu'est-ce qu'on serait capable de faire avec le poids de notre expérience si on retournait dans notre corps d'antan. Alors, c'est un peu ce qu'il vit. Et après être passé par-dessus le concept de est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est la réalité, il se laisse un peu emporter par tout ça. Et surtout, va se laisser aussi rattraper par un drame, par un traumatisme qu'il avait vécu alors enfant. Et quand il se rend compte qu'il est justement à l'aune que ce traumatisme-là se reproduise à nouveau pour sa famille. Alors, il va tout tenter pour essayer d'empêcher le passé de se répéter une nouvelle fois. Et ben, en fait, sans trop en détailler, puisque je veux quand même que l'auditeur lambda lise cette BD, ben, en fait, donc, c'est son père qui, le 31 août de cette année-là, va tout simplement abandonner, dans le fond, sa famille. On ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené vers là. Et ben, c'est ce qu'on va creuser aussi au fil des mois qui nous restent, dans lesquels on va suivre donc Hiroshi et sa famille de quand il avait 14 ans. Alors, c'est un petit bijou de bande dessinée, bien racontée, bien présentée, bien rythmée. Vraiment, ça se lit comme du bonbon. Alors, ça a été ma contribution à ce thème. De ton côté, Marco, en fait, c'est la deuxième fois que tu nous amènes Théodore Poussin, je pense, dans nos clubs de lecture depuis quelques années. Un auteur, un univers et un auteur, Franck Le Gall, que tu apprécies particulièrement.
Oui, effectivement. Pour moi, Théodore Poussin, Franck Le Gall, le créateur de Théodore Poussin, est l'équivalent du Tintin moderne. Il a atterri chez Dupuis, a créé un personnage, Franck Le Gall, l'auteur, a créé un personnage, Théodore Poussin, qui vit au début du 20e siècle. Il s'occupe de la comptabilité dans une petite compagnie d'export-import et il rêve de voyager, rêve d'aventure ailleurs dans le monde, partout dans le monde. Et l'album dont que j'ai choisi ce soir pour le thème, décidément, t'es pas le fils du laitier, c'est ce qui a culminé dans la série pour aboutir à cet album-là, et est parfaitement en accord avec le thème, c'est-à-dire que Théodore Poussin, il vit à Dunkerque avec sa mère, sa sœur, et il y a un secret qui plane au-dessus de sa famille, au-dessus de sa vie à lui. Et quand il finit par prendre l'aventure, prendre un bateau pour voyager, eh bien, il va être coincé en Asie. Et là, à partir de là, toute la série va être des aventures pour essayer de revenir, mais à chaque fois, va être présent. Le père va être présent, le fameux mystère, le fameux secret qui plane au-dessus de sa vie. Et arrivé au bout de cette aventure-là, un passager a disparu. En fait, c'est lui qui est revenu à Dunkerque avec le bagage, avec les connaissances qu'il a. Et il est devenu un aventurier. C'est tous ces héros qu'on connaît qui sont déjà des aventuriers. On les prend dès le départ et là ils vivent des aventures. Ils ont des connaissances et tout. Théodore Poussin, on a vécu toute la série avec lui, le début de la série avec lui, où il est devenu un aventurier. Et là, il arrive à Dunkerque et là, il faut que le mystère s'éclaircisse. Il faut que ce secret-là aboutisse. Et c'est là que ça se passe à Dunkerque. Avec un minimum de mots, un minimum de phrases, de répliques et tout, Théodore Poussin va avancer vers l'inévitable, vers le fait qu'il n'est pas le fils du laitier.
Alors ça, c'est la sélection de Marco Duchesne et Édouard. En fait, on a appris controverse que explosé ici à la Vambélé, que tu avais choisi initialement Achille Talon, mais que finalement tu t'es tourné de bord et tu as été plutôt regardé du côté des Métabarons, une série qui t'affectionne.
Ben, en fait, j'allais effectivement aller avec Achille Talon, mais bien sûr, tout ça est de la faute d'Émilie, puisqu'elle a choisi les 500 premiers écadieux. Et moi, tu me dis 500 premiers écadieux, évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Métabaron. Hein, je veux dire, c'est pratiquement la même chose. Donc, blague à part, on est dans la famille, on est dans les secrets de famille, on est dans la lignée, la caste des Métabarons qui précède et maintenant la série Métabarons qui vient, dans le fond, faire suite à cette espèce de série-là emblématique. Bien, ce n'est que ça, hein, c'est une succession comme ça d'héritage, de passation. De ce titre extraordinaire et avec toutes les implications, les ennemis, les devoirs qui en découlent avec justement donc ce titre de Métabaron. Et bien ici, comme je le disais, on est à la suite donc de cette grande série qui avait été conclue par Jodorowsky et Jiménez dans le temps, où on va reprendre en fait avec justement le dernier des Métabarons sans nom. Et alors que l'Empire, justement, techno continue de gouverner comme ça, de mener l'univers connu hein, sous un joug comme ça très dictatorial, eh bien, le Métabaron, lui, de plus en plus, commence à s'interroger hein, sur ses origines, sur la raison de son existence, pourquoi un être aussi puissant n'amène essentiellement que mort, n'amène que destruction, n'est pas capable d'engendrer rien. Pourquoi s'être perpétué comme ça, alors que, justement, au final, ce n'est que pour rien laisser derrière soi. Et en parallèle de ça, bien sûr, ben on a justement les techno qui continuent d'évoluer dans la peur, comme je disais, de ce Métabaron qui éternue et la galaxie au complet frissonne et attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, c'est justement dans ce point-là, la convergence de cette lignée, de ce point familial qu'on va essayer de s'emparer de l'ADN du Métabaron, sachant, parce que c'est la tradition familiale, qu'on ne peut vaincre un Métabaron que par l'intercession, en fait, d'un autre Métabaron. Donc, comme je disais, on retrouve dans tout ça, en fait, plusieurs thèmes liés à la famille, que ce soit, bien sûr, cette lignée, comme je disais, qu'on passe de père en fils, comme ça, depuis des siècles, mais également cette espèce d'usurpation de la lignée familiale, de l'ADN qui va se passer également en parallèle, entre autres, mené ben, justement par Wilhelm Mill, le fameux techno-amiral, qui sera un des premiers grands ennemis, en fait, du Métabaron dans cette nouvelle série.
Alors donc, je le disais d'entrée de jeu, je pense qu'on, je le rementionne, mais vraiment quatre interprétations radicalement différentes du style, quatre styles visuels aussi très différents, malgré qu'il y a peut-être certains croisements, quatre approches narratives de l'humour absurde à la science-fiction, avec deux drames intimistes quand même, à la limite, on pourrait s'amuser à faire des rapprochements entre Marco et moi là-dessus, mais bref, ce n'est pas à moi de décider des premiers rapprochements et des premières orientations, puisque s'il est une tradition au club de lecture qui s'est installée assez rapidement, c'est qu'Édouard mène le jeu. Alors, Édouard Tremblay, par où commence-t-on? Où s'en va-t-on, nous, formidables robots des temps nouveaux?
Eh bien, aussi, hein, c'est ça disparate que puisse être justement bon, les BD, les approches et tout, au-delà, bien sûr, de ce point hein, d'ancrage qu'est la famille. Mais ta vie, que un des éléments qui lie en fait toutes ces histoires-là également, c'est le secret de famille. Pour une raison aussi bête et aussi simple que, bon, si on veut avoir un récit à raconter, un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est, donc, pour que ces familles-là, en fait, nous dynamisent un récit, eh bien, il faut qu'il y ait des secrets comme ça qui soient en filigrane ou qu'on découvre ou qu'on explore ou qu'on essaie d'aller chercher. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis pas basé là-dessus pour décider dans quel ordre on allait parler des BD. J'ai décidé d'y aller tout bonnement à la largeur des familles. Alors, commençons par la plus grosse, hein, les 500 premiers cadieux. Le clan gigantesque, il va s'en dire. Gigantesque comme peut l'être une famille de région. Bon, je pense que n'importe qui, justement, qui a un souvenir un peu vivace, hein, des gros parties du temps des fêtes, entre autres, qui a eu, ne serait-ce qu'une fois peut-être, ou je l'espère plusieurs fois dans son enfance, la chance de se coucher en dessous des piles de manteaux, de fourrure, des oncles et des tantes, et de se ramasser justement dans cette espèce d'effervescence familiale. Évidemment, bon, Dieu ici la pousse dans des extrêmes assez extraordinaires, assez absurdes, assez éclatés, il va s'en dire. Mais, comme je disais, malgré tout, moi, j'y ai retrouvé une assise fondamentalement typique, en fait, fondamentalement naturelle de nos familles québécoises, de cette espèce de ces souvenirs d'enfance que je trimballe avec moi depuis maintenant des décennies. J'ai senti cette essence-là et j'aurai l'occasion de reparler un peu de la mythologie derrière tout ça, mais je vais d'abord vous laisser vous prononcer, bien sûr, sur cette étrange et absurde BD.
Oui, étrange et absurde. En fait, j'aime bien ton qualificatif, Édouard, là-dessus. Puis, tu sais, pour moi, c'est la BD, peut-être dans celle qu'on a choisie, où, en termes événementiels, il se passe le moins de choses, en mesure, au bout du compte, c'est une fête de famille. Puis, il passe l'album dans la fête de famille à rencontrer des gens, mais en même temps, il rencontre tellement de gens et ça vire tellement n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi, que Cadieux nous surprend à chaque fois jusqu'où il va s'en aller. Éventuellement, il nous amène à une autre place, puis toujours un peu plus loin. Et pour moi, en plus, ça n'a pas l'air d'une première, je pense que c'est sa première BD à Xavier Cadieux. Il était arrivé avec ça, et arrivé avec quelque chose qui était abouti, dans le fond, d'un point de vue humoristique. Dans le fond, je pense qu'un humour absurde qui était complètement mature, complètement maîtrisé. Et au bout du compte, son a priori familial lui permettait de nous tisser une toile absurde profondément attachante.
Moi, ce que j'adorais, c'est que ça commençait par une situation qu'on a tous vécue. C'est-à-dire, là, il va y avoir une fête de famille, il y a Xavier qui va inviter sa copine pour la première fois, sa copine Bianca. Puis, il va donc devoir l'initier un peu au mythos de la famille parce qu'elle n'a jamais vécu ça. Puis, personne n'est préparé à ça, sauf les Cadieux eux-mêmes, probablement. Puis, ça rejoint un petit peu la première fois qu'on invite un chum ou une blonde à la maison puis qu'on doit comme prévenir notre douce moitié. « Ah, je suis vraiment désolée, tu vas venir souper chez mes parents. Je m'excuse, mes parents sont vraiment, vraiment bizarres. » Mais c'est ça poussé à son extrême tellement il y a tout plein de petits rituels qui sont propres aux Cadieux, qui sont complètement incompréhensibles pour un observateur extérieur. Puis, ce qui est encore plus drôle, c'est que Bianca, finalement, c'est une des personnes qui s'en sort le mieux dans le couple parce que Xavier, ça va pas bien, son affaire.
Et c'est comme ça dans toutes les familles. C'est comme ça dans toutes les familles. Je veux dire, moi, l'album, les grandes familles, pour moi, les grandes familles, c'est un mystère. Moi, je viens d'une petite famille. Ma mère était fille unique et tout. Mon père, lui, il était 13 enfants, mais on ne les côtoyait pas. Ce qui fait que moi, les grosses familles, je n'ai jamais connu ça, mais à la lecture de l'album, je me dis, c'est à ça que ça ressemble. C'est-à-dire, c'est à ça que ça ressemble, dans le sens que si on m'avait invité dans une grande famille demain, ben on sauterait comme ça d'épisodes d'histoire en histoire et tout. Puis, tu sais, c'est pas un processus narratif nouveau, là. On a déjà vu ça, là, des soirées où les personnages vont de personnage en personnage et d'histoire en histoire. Mais dans ce cas-ci, c'est familial. Et moi, ça m'a beaucoup fait sourire parce que de mémoire, on a déjà fait un party de famille du côté de mon père où il était 13, puis là, on avait rempli la maison et même l'extérieur en été. Et effectivement, c'était ça. C'est le souvenir que tu en as, c'est que tu vois des personnes, puis des conversations et tout, qui des fois dégénèrent, des fois pas, des fois c'est plate. Et je trouve que c'était une belle image de ce que pouvait être. Mais bon, comme je ne l'ai pas vécu, je ne peux pas cautionner, mais moi, c'était ça à coche. Là.
Oui, ben, c'est un genre archétypal, à mon sens, les fêtes de famille comme ça. Il y a, au niveau, le cinéma nous les a beaucoup amenés. Entre autres aussi, il y a quelque chose, je reviens avec le terme d'archétypal un peu là-dedans, et je pense que le récit lui-même aurait pu être sans intérêt, n'eût été justement d'un côté, dans le fond, la capacité de Cadieu de créer des situations inattendues à l'intérieur de ça, et de l'autre, d'avoir un dialogue, puis d'avoir un rite de parole, une approche de parole qui fonctionne aussi, puis qui elle-même se place un peu en décalage avec ce qui se passe aussi. Et bien, on dirait que c'est comme un peu l'approche de l'accumulation, si on peut dire. Donc, éventuellement, tu mets plein d'éléments absurdes, toujours avec plus de décalage par rapport à ta réalité, puis ça fait juste magnifier, au bout du compte, l'effet comique de la chose à cause de la façon dont les gens réagissent. Donc, la situation elle-même n'est pas uniquement le seul moteur comique, mais il y a la réaction à la situation. Puis, à la limite, il y a notre réaction à la réaction à la situation aussi. Donc, ça fait qu'on accumule aussi des éléments parce que, je veux dire, c'est, au bout du compte, c'est un peu sans queue ni quête, mais c'est traité comme si ça ne l'était pas aussi ou comme si c'était parfaitement normal alors que ça ne l'est pas. Donc, c'est délectable. En même temps, c'est difficile à décrire aussi comme album, comme récit, comme ambiance, je trouve, d'une certaine façon.
Mais ça rentrecoupe justement ce que Marco disait, hein, c'est que justement cette absurdité-là ou cette incompréhension vient qu'elle est propre justement à chaque famille. Hein, c'est comme quand on rentre comme un étranger comme ça. Et moi, j'ai la chance d'avoir une famille assez étendue où justement quand on fait les fêtes, on est 30, 40, 50. Et donc j'imagine quelqu'un justement qui connaît pas tout, et là tu rentres tout d'un coup, c'est complètement enivrant, c'est complètement étourdissant, là, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite, et tout ça. Et même, je dirais, au-delà de ça, et c'est justement ce que je trouve qui est quand même amusant avec la dynamique dans les 500 premiers Cadieux, c'est qu'on établit la mythologie familiale. Et ça, c'est encore une fois, parce que, je ne sais pas, ne serait-ce que par fierté, tu sais, je veux dire, quand tu rentres quelqu'un de nouveau dans ta famille, tu sais, oui, bon, t'as un petit peu hâte. Ah, bon, mon oncle un tel qui va faire encore ses jokes plates. Ou bon, tu sais, justement, ma mère qui va encore te poser des... Mais tu sais, en même temps, reste, tu sais, c'est ta famille, tes aimes, c'est un attachement quand même. Et donc, t'as cette espèce d'envie de... que ta famille soit pas plate, tu sais, que t'aies des choses intéressantes à raconter. Fait que là, c'est l'histoire du grand-père, tu sais, ou de l'oncle un tel qui était capable de soulever 400 livres avec ses... Et c'est cette... qui sont purement exagérés. Et probablement même que l'invité sait que c'est purement exagéré. Mais ça fait un peu comme partie de la tradition. C'est la mythologie des tiens que tu as la chance ou que tu as l'opportunité de mettre en place parce que, justement, tu as la chance d'avoir cette famille-là autour de toi. Donc, pourquoi pas la dorer, la garnir, la sculpter d'un petit peu de ces incongruités ou de ces histoires extraordinaires. Et je veux dire, Cadieu le fait, évidemment, là, parfaitement bien dans son récit. Là.
C'est toujours l'appareil. C'est toujours le point de vue. Hein. En fait, j'étais en train de me justifier que je n'avais pas une grande famille, mais si j'avais invité quelqu'un à rencontrer ma famille, même la plus petite, il faudrait quand même que je la prévienne de certaines choses. Là. C'est ça. Et c'est surtout des trucs de génération. T'sais. À un moment donné, tu fais « Ah oui, ça, c'est ma mère, mais son grand-père a fait telle affaire, mais on ne l'a pas vécu, l'affaire. » Alors, c'est... Et il y a ça aussi, le récit qu'on en donne de ça, tu sais, est un peu personnalisé par notre point de vue à nous, tu sais. D'ailleurs, on s'en comptait des trucs avec moi et ma compagne récemment, puis, ah oui, elle me racontait une histoire de bol de calèche et de roue de calèche. Puis moi, j'y racontais les célébrités de mon côté, d'une tante qui avait fait du cinéma du cinéma québécois. Tu sais, c'est toujours notre le point de vue des générations, des histoires qu'on s'est fait raconter, mais des histoires que nous, on raconte. Et je pense que ça vient aussi de là, de la force de l'album. Là.
Ben, c'est la porte qui s'ouvre, c'est la porte qui fait rêver. Et si tu regardes Théodore Poussin, je veux dire, tout est motivé là-dedans également. Je veux dire, on tombe sur on entend parler d'un oncle qui est là-bas, on entend parler de. Puis c'est comme tu disais au départ, on rêve de suivre ces pas-là, de suivre cette aventure-là. Et c'est encore peut-être plus, je pense, marquant pour la série Théodore Poussin, parce que quand on lit un petit peu sur, bon, justement, le gars et tout, lui-même s'est basé, si ma mémoire est bonne, sur le journal de son grand-père qui a vécu justement un peu ce genre d'histoire extraordinaire bon, dans la marine et en Orient et tout, et tout le Bataclan. Et ça amène ce qui est là, l'aboutissement, justement, bon, de quoi, je pense, c'est le sixième album de la série, tu sais, de Théodore Poussin, où là, c'est la fin de la quête initiatique qu'on poursuit depuis le départ, cette fameuse quête des origines. Et encore une fois, tu sais, je veux dire, est-ce qu'on a un récit, une trame narrative plus universelle, plus tu sais, j'aurais pu trouver une tonne de mangas qui ont cette espèce de mm-hmm. lignée-là. Je veux dire, la lignée des origines, le type qui veut savoir qui il est, d'où il vient.
Voilà, parce que le secret de Théodore Poussin, c'est que dans sa famille, il y a le fameux Capitaine Steen. Le Capitaine Steen qui est l'aventurier qui est parti de Dunkerque, qui a laissé sa famille derrière et tout. Alors, quand Théodore Poussin décide de voyager, il le fait comme secrétaire de bord à bord d'un paquebot et rendu en Asie, il est bloqué là. Et là, à partir de là, tout son voyage de retour va être ponctué par des aventures qui vont le mettre sur les traces du Capitaine Steen. Et plus il avance, plus le Capitaine Steen devient présent, devient moins fantomatique qu'au début. Il devient de plus en plus une présence corporelle, une présence réelle. Et quand arrive l'inévitable réflexion, quand il arrive à Dunkerque, un passager porté disparu, quand il revient à Dunkerque, là, le secret du Capitaine Steen éclate dans le sens que à travers les non-dits, à travers les non-dits de sa mère qui n'est peut-être pas sa mère, qui à travers sa sœur, à travers Monsieur Novembre, ce personnage qui lui a mis les bâtons dans les roues pendant toutes les aventures et qui est engagé par le Capitaine Steen pour que Théodore Poussin ne découvre pas le secret, mais Théodore Poussin est maintenant à partir de cet album-là est un héros. Alors ses déductions, ses réflexions sont de plus en plus aiguisées. Alors là, c'est le père qui lui apparaît dans cette église désaffectée de Dunkerque et tout est dévoilé. Alors, cette envie de voyager du début jusqu'à là est comme une espèce d'héritage. Et c'est ce secret qu'on veut garder, mais qui, au-delà de ça, franchit les portes de l'interdit, puis hop, là, le sang qui coule dans tes veines, c'est pas celui du laitier, c'est celui du père.
Et Marco, en fait, tu me fais réaliser, dans le fond, ce que Théodore Poussin, au bout du compte, je connais la série beaucoup par le club de lecture, par les découvertes que tu nous en fais et par l'intégrale que tu nous as prêtée également. Mais ça montre, à mon sens, c'est que Franck Le Gall, dès le départ, devait avoir une vision assez claire pour son personnage, parce que justement, il y a une progression vers le tome 6 et on sent, qu'on connaisse la série ou pas, que le tome 6, à ce moment-là, c'est vraiment un récit qui est transformateur pour le héros. Et au bout du compte, j'imagine que le lecteur prend compte aussi de la transformation qu'a vécu le héros au fil des albums. Et tu faisais la comparaison tantôt avec Tintin en ouverture, en disant peut-être un peu dans le style, dans le genre d'univers, dans le type d'aventure, peut-être, mais on est quand même face clairement à un personnage justement qui n'est pas statique. Donc, dans Tintin, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, l'univers se peuple, mais les personnages restent assez stables. Tandis qu'avec Poussin, bien, on a un héros qui a appris, dans le fond, à devenir un héros et qui, avec le retour justement vers ses origines qu'il nous propose dans le tome 6, bien, dans le fond, là, assis une certaine approche, une certaine évolution qui, j'imagine, a amené la série ailleurs par la suite.
Tout à fait. En fait, pour moi, un passager porté disparu de cette série-là, ce tome-là, est l'équivalent des bijoux de la Castafiore de d'Hergé, de Tintin. Arrivé à ce stade-là, les bijoux de la Castafiore, Tintin, on a toute une amalgame de personnages qui vont aboutir dans cet album-là. La Castafiore, Lampion, bref, un paquet de personnages vont se retrouver là. Dans un récit où il ne se passe rien, il y a un faux vol, il y a un paquet de mystères qui se résolut tranquillement, il y a un faux mariage, bref, il y a un paquet d'affaires. Et pour moi, Un passager porté disparu, c'est son équivalent. C'est-à-dire que, oui, on a toute une série en background qui attend, mais non seulement il se passe presque rien, mais en même temps, il se passe, tout se passe là, avec le héros. Et dans Tintin aussi, c'est ça. Dans les bijoux de la Castafiore, il se passe rien, mais en même temps, tout ce que Tintin a accumulé au fil des albums, comme expérience et tout, le fait avancer dans cet album-là pour sereinement, dans ce mystère qui n'en est pas un et tout. Et Théodore Poussin, pour ce retour à Dunkerque, c'est le même effet. C'est la même. Alors, pour moi, c'était l'équivalent de... C'est d'où ma comparaison.
Et puis avec les personnages qui sont bien placés, les relations qui sont claires, les réactions de chacun, il y a un côté naturaliste. Je trouve, surtout dans du moment où Poussin revient à Dunkerque, l'aventure se joue pratiquement, je veux dire, on serait dans 24, là, tu sais, ça joue pratiquement en temps réel dans les dialogues, dans les discussions, où il ne se passe pas grand-chose, mais en même temps, il y a plein de tensions, il y a plein de non-dits qui apparaissent beaucoup plus clairs pour le personnage. Donc, il ne se passe rien, mais il se passe tout en même temps, dans les dialogues, dans les réactions, et à travers la capacité, on parlait de la capacité de dialoguiste de Cadieux, mais je pense que le gars est capable aussi, franchement bien, de donner du beau dialogue là-dedans, mais aussi une belle expressivité dans ses personnages, dans les expressions, dans la façon dont ils réagissent, puis dans la façon dont ils ne disent rien également.
On voit aussi l'évolution du personnage, quand on voit le décalage que Théodore va avoir avec ses amis qui l'a laissé à Dunkerque. Il va prendre une bière avec des amis. Je pense qu'il y en a un qui lui annonce qu'il va bientôt se marier. Il y a sa sœur aussi qui lui fait remarquer à quel point il a changé. Mais effectivement, c'est plus le petit gars de Dunkerque. Je pense qu'il est resté coincé en Asie pendant des mois, des années, quelque chose comme ça. Donc, ça paraît. Puis c'est super bien amené aussi.
C'est... Je crois aussi, c'est quand on parlait justement de récits initiatiques, c'est comme disait Marco, il faut pour Théodore Poussin devenir digne de ce secret-là pour en avoir la clé, pour qu'il lui soit révélé. Il faut qu'il fasse ses preuves. J'ai l'impression que si on avait eu, disons, s'il n'avait pas pris cette branche-là, s'il n'avait pas justement persisté avec cet acharnement-là, le secret lui aurait pas été révélé. Peut-être qu'il aurait passé le reste de sa vie et que tout ça aurait été comme fermé dans une boîte et dire non. Finalement, malheureusement, il n'a pas fait la preuve qu'il était digne d'aller chercher ça.
C'est tellement ça dans le sens que, effectivement, parce que Steen engage Novembre pour lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il ne le découvre pas, mais ça joue contre lui, Steen, parce que Théodore Poussin va déjouer tout ça. Effectivement, tu as vraiment le point. Il fallait qu'il en soit digne. Merci.
Mais c'est ça, parce qu'il doit. Il faut faire ses preuves. Et même au-delà de ça, il y a presque une entente tacite, dans le fond, à ce que ce secret-là soit maintenu. Parce que justement, comme on disait, c'est des non-dits, c'est des regards. Donc, les gens savent. On le connaît, ce secret-là autour de lui, mais c'est comme. Il y a comme cette espèce d'accord silencieux, cette espèce de d'omerta autour de tout ça qui fait que, non, ben, tu sais, il y a cette raison-là, pour la connaître, tu dois la mériter. Et c'est, à mon avis, aussi ce qui porte justement un concept comme celui de quartier lointain. Quartier lointain de Taniguchi, hein, qui reprend un thème quand même assez récurrent, en fait. Il y a plusieurs séries de mangas qui vont mettre au cœur de leur récit cette idée de deuxième chance, cette idée de pouvoir, en quelque sorte, influencer le passé, le réécrire, le revisiter. Parfois, c'est à l'inverse. Dans le fond, on reçoit la visite de son soi futur qui vient nous dire « Ah, il va arriver ci ou ça ». Mais là, comme c'est souvent le cas également, on a cette chance de retourner dans ce qu'on a vécu et de voir si cette fois-là, Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ou est-ce qu'il y a quelque chose à agir? Bon, je ne veux pas rentrer dans les temporalités de Back to the Future, là, mais est-ce qu'il y aurait moyen, justement, comme disait Raymond, de par la sagesse maintenant qu'on a accumulée parce qu'on est plus vieux et tout ça, de juste altérer légèrement quelque chose et d'arriver à une autre réalité, à changer, à saisir en fait cette seconde chance qui nous est accordée, il y a peu de choses près. Là.
Oui. Puis finalement, en fait, j'ai l'impression que tu as mis le doigt pratiquement, tu as peut-être tué le débat, c'est tant jamais, mais Edouard, quand tu parlais d'être digne justement de connaître, de savoir, au bout du compte, en fait, il y a des choses que, et ce qu'on comprend à travers Quartier lointain, c'est qu'il y a des choses qu'on est capable de comprendre à l'échelle de 14 ans. Puis il y a des choses qu'on est capable de comprendre puis qu'on est digne de savoir à l'échelle de 48 ans parce qu'il y a une complexité là-dedans et que si ce qu'il a vécu à 48 ans dans un corps de 14, il avait vécu à 14 ans dans un corps de 14, il n'aurait pas eu la même charge, il n'aurait pas eu la même réaction, il n'aurait pas eu la même compréhension non plus, il n'aurait pas eu la même teneur de discussion. Et les personnages le rappellent d'ailleurs sporadiquement, autant la grand-mère, autant une tenancière de bar, autant d'autres personnages clés qui lui disent ben, j'ai l'impression de parler avec un adulte, j'ai l'impression que tu es prêt à ce que je puisse te parler de ça, que je puisse te transmettre des secrets que finalement, lui, à 14 ans, dans la première chance, dans le fond, qu'il avait eue, n'avait jamais pu obtenir le droit d'avoir cette information-là.
Il y a aussi c'est une espèce de cassure. Ce que j'aime de cet album-là, c'est l'espèce de cassure, la faute du père. Tu sais, qu'on traîne, tu sais, de génération en génération, là, la faute des pères qui, tu sais, ouais, c'est la faute des pères, puis là, tu vas traîner, tu sais, dans les, en tout cas, dans les gens, les tribus, les trucs comme ça, il y a toujours cette espèce de truc-là, de la faute des pères, et que les enfants répliquent en comportement sans savoir pourquoi. Parce qu'ils ont vu et qu'ils n'ont pas compris, mais qu'ils ont adapté les comportements. Et qui finit par. Et là, il y a une espèce de cassure parce que ce retour dans le temps, il garde son esprit d'adulte. Et là, avec cette vision-là, tu sais, en tout cas, pour ma part, moi, ça me fait me souvenir d'un paquet de trucs à un moment donné chez nous, avec mes parents et tout, des situations qui, avec le recul, tu dis, ah ouais, OK, c'est pour ça que ça arrivait, pour ça que c'est arrivé, c'est pour ça que ça s'est fini comme ça et tout. Là. Mais à l'époque, tu le vois pas, là, t'es dedans, puis t'es ado, tu te rebelles, puis tu fais un paquet de niaiseries. Là,
il aurait fallu quasiment garder ça en note dans un journal pour pouvoir en reparler.
Ouais,
avec
ses c'est
parents
ça. 20 ans alors, plus tard, cet effet-là, la faute du père, c'est que juste à temps, en fait, à un moment donné, arrive le. Cet événement-là qui fait en sorte que cette faute du père, ben, il va pas la traîner toute sa vie, là. T'sais, il va se réveiller et tout, là.
Mais moi, je trouvais ça drôle parce que, je sais pas pour vous, c'était mon premier Taniguchi. Puis, suite à cette espèce de poids du passé qui est vécu par cet homme de 48 ans qui va se retrouver dans le corps d'un adolescent de 14 ans, ça doit être mon passé de lectrice de romans de science-fiction, mais lorsque le personnage se retrouve à vivre cette seconde chance dans le passé, dans son corps de 14 ans, il y a le poids du futur que je sentais pendant toute la BD. Puis j'avais très, très hâte de voir finalement, bon, si on allait rester dans ce corps d'adolescent de 14 ans pour toujours. Puis en fait, tout ce qui se mettait en branle dans cette seconde chance, la manière dont ça allait se dénouer par la suite, comme par exemple, dans ce corps de 14 ans, ben peut-être qu'il pourrait se faire une autre copine que celle avec laquelle il a bâti sa vie par la suite. Est-ce que, par exemple, justement, ce père qui a disparu, est-ce qu'on va réussir à le faire changer d'avis? Puis, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va être de retour dans un corps de 48 ans? Puis, finalement, à mesure que la BD avance, on va comme se dépouiller cette espèce de poids du futur. Le personnage décide de ne pas en tenir compte du tout. Donc, s'il y a une amourette avec une autre lycéenne, ben tant mieux. Il y a quelques personnages qui vont avoir un petit peu des indices sur la manière dont le futur va se dérouler. Puis, à la fin, on finit par avoir une réponse, mais finalement, pas vraiment. Donc, je trouvais que cette espèce de dépouillement était fascinant à suivre parce que le personnage ne va jamais se questionner sur la manière dont modifier le passé pourrait altérer le futur, comme justement dans Back to the Future.
Oui, puis en même temps, ce dépouillement-là vient peut-être un peu d'un côté par le lâcher-prise, comme avec l'amourette, justement. Mais à un moment donné, peut-être aussi par... Il se rend bien compte qu'il n'a aucune capacité, au bout du compte, à changer ce qui se passe, en fait, qu'il est impuissant à changer. Fait qu'il y a, ça aussi qui vient amenuiser un peu ce poids-là. Mais effectivement, il y a comme... C'est très, très présent au début du récit où il se questionne, il se pose des questions, il est très en retour. Puis après ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans le récit où il décide de laisser aller un peu puis de profiter au bout du compte. Puis ça change un peu le rythme, ça ramène un peu de naïveté. Peut-être un peu dans ce récit-là, du moment où il dit, ben regarde, je vais les revivre mes 14 ans. Je vais en reprofiter, je vais me laisser aller dans ce corps-là, dans cet univers-là, jusqu'à ce que, dans le fond, le départ, la faute du père, dans le fond, en vienne à le rattraper, puis ça devienne ça au bout du compte, notre décompte, c'est est-ce que sur ce qui compte vraiment, au bout du compte, est-ce qu'il va réussir à avoir un impact, est-ce qu'il va réussir à changer quelque chose, ou est-ce que la réalité des choses va rester immuable parce que ce qui devait arriver, puis qu'il y a des choses que, qu'on le veuille ou non, ben on ne peut pas les changer sans aller contre la volonté de d'autres, au bout du compte.
Ben, c'est d'autant que, bon, à la défense aussi du personnage principal, bon, sa famille, ça va pas très bien non plus, hein, sa dynamique familiale actuelle, il semble pas non plus extrêmement triste de la laisser derrière lui, en quelque sorte, parce que là, bon, justement, 14 ans, la deuxième chance, c'est une nouvelle expérience, bon, fait qu'il y a cette espèce, en même temps, de dichotomie très intéressante dans ce personnage central-là, parce que, oui, on va peut-être avoir la chance d'arranger les choses, mais en même temps, comme disait aussi, il y a cette espèce d'abandon volontaire à dire, ben, on garde, écoute, on va revivre ça. Je serais intéressant, parce que je m'interroge, bon, sur à quel point le japonais aussi, lambda, considère la destinée et bon, le poids de ce qui est écrit, de ce qui ne l'est pas, de comment il y a une espèce d'immuabilité dans tout ça. Immuabilité qui, bien sûr, est une marque de la caste des métabarons, cette grande lignée familiale, s'il en est, puisque inévitablement, comme je l'expliquais quand je présentais un peu la BD, pour être le prochain métabaron, il faut comme ça tuer son père, il faut hériter de lui en l'éliminant, ni plus ni moins. Et donc, dans cet entonnoir familial duquel on est parti, où on a justement ces 500 cadieux, eh bien là, on arrive à sans nom, le métabaron, seul, bien sûr, parce que comme tous les métabarons, ben, il a dû tuer son père, il est comme ça livré à cette immense solitude, à cette grande réflexion aussi justement sur son devoir familial. Parce que, comme je le disais, bon, dans tout le précédent opus, les métabarons, ben, c'est l'ultime mercenaire, c'est le guerrier qui est capable de vaincre, dans le fond, pratiquement une galaxie à lui tout seul. C'est le gars qui peut faire ou défaire les empires à son, sur un caprice, pratiquement. Mais dans la nouvelle série, on va progressivement découvrir que ce n'était pas vraiment ça. L'objectif de cette lignée-là, que c'est cette relation qu'ils ont bon, avec la planète Marmola, qui est le lieu de naissance de la caste, qui est aussi là où on va retrouver ce fameux épiphyte, cette espèce d'huile qui permet de faire flotter des choses qui pèsent des tonnes et qui va devenir comme l'équivalent de l'épice, en fait, de Dune dans cet univers-là. Et donc, tout ça fait que, justement, on est en train de se rendre compte que ce qu'on croyait être comme l'immuabilité, l'inévitable, ce que devait être un métabaron, ben finalement, c'est peut-être pas tant que ça, ce qui était pressenti. Et alors que les techno-technos, c'est ça, vont s'évertuer comme ça, essayer de répliquer ça, ben eux aussi, dans le fond, avancent progressivement vers une autre vérité qu'on va découvrir et qui va les amener dans des drôles d'avenues.
Ce que je trouve incroyable, moi je connaissais j'ai pas tellement suivi ce qui s'est passé, toutes les spin-offs de l'Incal, mais déjà dans l'Incal, on pensait que John Gifull était le personnage le plus intéressant, mais on constate que le métabaron, effectivement, par rapport à ça, on y a créé une espèce de culture puis d'héritage qui fait en sorte que chacun des personnages, au fur et à mesure que ça avance, qui finit par se déployer en espèce d'univers même, d'univers propre à chacun des personnages. Moi, c'est ce qui m'a toujours fasciné dans Jodorowsky. Des fois, il délire, mais là, je pense qu'il a vraiment suivi une...
La mythologie une bonne familiale. La mythologie
ouais, non, tout à fait. Là. Mais c'est ça la force de ça, ouais. Le truc, là, tu sais, d'acquérir des compétences et tout, puis si tu veux avancer, tu le perds, puis tu sais que ton fils va te tuer par après, ou ta fille, là, peu importe. Là. Effectivement, je trouve ça fascinant.
C'est pour ça que je disais quand ça, les 500 premiers cadieux, c'est pareil, mythologie familiale, voilà.
Bon, il y en a un qui est dans l'espace, mais rien n'est sûr que les cadieux iront peut-être dans l'espace.
Ah, ben voilà.
Non, en fait, moi, je faisais juste écouter Edouard, puis je me dis, ah merde, là, il va falloir que je lise le 2, puis le 3, puis tout le reste, là. T'es tout chez vous, mais prêterais-tu?
tout à fait, évidemment, hein, vous comprendrez.
À côté de c'est Achille Talon.
À côté de Achille Talon.
C'est effectivement intéressant. En fait, quand on parle de mythologie, puis il y a différentes façons, à mon sens aussi, de point de vue mythologique, soit ce soit vraiment compréhensible, clair, qu'on embarque là-dedans, puis que ça soit comme imbriqué un peu à l'intérieur de l'univers, ou soit que auteur-trice, dans le fond, doivent nous l'expliquer de façon claire. Puis je veux dire, pour moi, je ne connais pas énormément La Case des Métabarons. Ce n'est pas une série que j'ai lue jusqu'à récemment, en fait, jusqu'à un club de lecture en un beau mois de septembre 2022, mais qui va probablement m'amener à m'intéresser à la balance de la série. Mais malgré l'absence de cette connaissance-là, je veux dire, on tombe dans cet univers-là. Tout est clair, la mythologie, le cadre, la hiérarchie, je veux dire, tout tombe un peu dans une certaine logique. C'est sûr qu'on va chercher quand même des éléments, des références, donc, mais ça m'a surpris d'à quel point, dans le fond, le même récit, avec des auteurs peut-être moins aptes, aurait été peut-être un peu trop dense, aurait été lourd, on aurait perdu son lecteur, alors que là, ça reste parfaitement limpide, même si c'est littéralement le premier Métabaron qu'on lit ever.
Oui, bien, tu sais, il y a un caractère qui est, je pense qu'on pourrait qualifier de, tu sais, de biblique, hein, à cette espèce, justement, de par l'ampleur du personnage, de par l'ampleur du
biblique
passe autour, hein. Mais, tu sais, bon, il n'y a pas de théologien dans place, mais tu sais, si vous connaissez un petit peu les premiers chapitres de la Bible, la Genèse et tout, c'est beaucoup ça, c'est un tel engendrant un tel, engendrant un tel, engendrant un tel, engendrant un tel, mais à travers tout ça, il y a une passation, et comme je disais, aussi bête que ça puisse paraître, hein, des métabarons aux 500 cadieux, il n'y a qu'un pas dans la mesure où, justement, c'est pas les fils du laitier, mais c'est quelque chose qui a un écho, je dirais, partout. Peut-être encore plus, bon, pour quelqu'un comme moi qui vient de... Parce que si moi, par exemple, bon, en tant qu'Édouard, je retourne dans Charlevoix, Édouard Tremblay, ça évoque pas grand-chose à grand monde. Mais
il y en a 25. Édouard...
Exactement. Mais tu sais, Édouard, Jean-Yves, Jacques Arrodoff, tout d'un coup, ça a une résonance pour beaucoup de gens. Et
cette fameuse présentation que, tu sais, on voit dans des films, dans les tribus, tu sais, moi, Marco, fils d'Armand, et là, fils de Théodore, tu sais, parce que mon grand-père s'appelait Théodore, fils de Théodore, tu sais, là, déjà là, tu te présentes, et déjà là, t'as tout le passé qui vient justifier ton présent.
Oui, bien, tout le passé qui vient justifier le présent parce que, dans le fond, les générations, puis nos parents, nos grands-parents, leurs parents, leurs grands-parents, etc., chacun était porteur de quelque chose, de portion de la, entre guillemets, mythologie familiale, pour le meilleur ou pour le pire. Puis, dans le fond, il y a des passages conscients qui se font, mais autant qu'il y a des passages inconscients qui se font aussi. Puis, c'est typé de dire ça, puis peut-être de se diriger vers une conclusion en disant ça, mais on est clairement le fruit de ceux qui nous ont précédé, au bout de compte, à multis égards, autant dans nos bons côtés, autant dans nos mauvais côtés, autant dans certains traumatismes familiaux, autant dans certains bonheurs puis grandes réussites familiales aussi. Et ça fait partie, au bout du compte, de notre mythologie familiale. Et chacun en a une à notre échelle. Et la mythologie peut être comme celle de Quartier lointain où tu as un événement traumatisant qui a tissé la famille, mais qu'on se rend compte qu'il y a d'autres événements traumatisants qui l'ont tissé, qui sont devenus, dans le fond, des hasards, finalement, qui ont tissé un peu la toile, un peu comme dans Théodore Poussin, où c'est des éléments, des décisions, des drames, dans le fond, qui ont amené des éparpillements, qui ont amené à des retrouvailles, qui ont amené à autant de façon même littéralement mythologique comme dans les 500 premiers cas Dieu ou comme dans les Métabarons où l'on on ramène cette dynamique de hasard, au bout du compte, vers une mythologie en bonne et due forme, voire même les assises d'Empire interstellaire.
À laquelle, justement, le héros ben, décide s'il veut ou non s'inscrire, dans le fond. C'est là où est, je pense, la différence entre les divers récits. C'est autant qu'on a un Théo Poussin qui veut découvrir ses origines, autant qu'on a justement un Métabaron qui, lui, au contraire, ça serait peut-être bien passé de tout ce poids et cet héritage familial-là. Donc, c'est toujours ce rapport à notre mythologie personnelle et à notre famille personnelle qui va déterminer hein, dans un ou dans l'autre, ou justement dans le quartier lointain, la relation au père, qui est mon Dieu central dans tellement de récits, de rapports comme ça. On s'en sort pas, là. C'est, je veux dire, peu importe où on va, c'est le poids de la famille qui est sur nos épaules, puis à partir de là, ben, on choisit comment on compose avec ça.
Et je pense que c'est clair. Oui, vas-y, Émilie, pour la conclusion.
Ben, d'ailleurs, tu me corrigeras si je me trompe, Édouard, mais dans justement Métabaron, le Métabaron ne veut pas de cet héritage et ne veut pas avoir de descendance.
Voilà.
Ce serait le seul moyen de s'en échapper, finalement.
Et voilà.
À suivre dans les prochains tomes, comme on dit. Et je rappelle les titres qu'on a lus pour ce club de lecture consacré à la famille. Alors, Un passager porté disparu, donc de Franck Lebal, Les aventures de Théodore Poussin, tome 6, c'est chez Dupuis. On a lu également « Quartier lointain » de Jiro Taniguchi chez Casterman. On a lu également donc la série « Méta Baron » d'Alejandro Jodorowsky, Jerry Friesen et Valentin Secher. Séché, tome 1, donc Wilhelm Sand, le techno-amiral, c'est aux humanoïdes associés, et également les 500 premiers Cadieux de Xavier Cadieux, du côté de Feu, la mauvaise tête. Alors, bien, Émilie Roy-Brière, Édouard Tremblay, Marco Duchesne, un grand merci à vous trois.
Merci à toi, mon ami.
Merci, et plaisir.
On se revoit évidemment le mois prochain, donc autour du 25 octobre, pour un prochain club de lecture. Et d'ici là, ben, on souhaite également, nous, une bonne semaine. Et on se retrouve mardi prochain pour une autre édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous accompagner.